RTL Soir.
On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel.
On refait donc le monde jusqu'à 20h sur RTL avec la journaliste Christine Ocrane. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Le psychanalyste Gérard Miller. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
L'éditorialiste au Figaro Yvan Ruffol. Bonsoir. Bonsoir. Et le chroniqueur économique de RTL Christian Menanteau. Bonsoir Christian.
Bonsoir Marc-Olivier.
Premier sujet, vous vous en doutez, et une large partie de Refait le monde sera consacrée évidemment donc à l'utilisation du 49.3. Le gouvernement a donc décidé de passer en force. Manuel Valls engage la confiance du gouvernement pour permettre l'adoption de la loi Macron après la convocation d'un conseil des ministres extraordinaire. Le Premier ministre n'a voulu prendre aucun risque, dit-il. Alors on va revenir sur ce qu'on appelle une crise politique. Alain Duhamel le soulignait tout à l'heure. On va s'interroger sur ce qu'elle signifie, sur ses conséquences. Mais d'abord, donc sur les réseaux sociaux, comment a été perçue l'utilisation du 49.3 par Manuel Valls, Benoît Galeret de LCI. Bonsoir.
Bonsoir. Aveu de faiblesse, déni de démocratie, arme anti-parlement d'une 5e République à bout de souffle, un passage en force inacceptable. La verte Emmanuel Cos réussit l'exploit de résumer en un seul tweet les reproches que l'on peut lire en ligne. La députée PS Valérie Fourneyron tweet-elle que l'usage du 49.3 ne doit pas occulter la qualité du dialogue et de la coproduction législative sur la loi Macron. Mobilisons-nous pour la réussite du gouvernement et de la France, dit-elle. Mais à la gauche du PS, Gérard Filoche ressort cette phrase de Jospin en 2006. Ne pas laisser le Parlement débattre, c'est une mauvaise méthode et ce n'est pas un gage de confiance en soi. Plus assassin encore, Samuel Citolande lui-même, toujours en 2006. Le 49.3 est une brutalité, un déni de démocratie. Il s'agit d'une violation des droits du Parlement. Nouveau reniement de Hollande, mais à ce stade, je crois que plus personne ne compte. Pauvre démocratie politicienne, la Jules. Diego soupire que crier au déni de démocratie, c'est un peu ridicule dans la mesure où on applique la Constitution. On peut discuter de son usage ou de sa pertinence, mais le 49.3 ici, c'est j'ai peur de ma majorité, donc je l'oblige, lui répond Thomas. C'est un moment de vérité. Pour la première fois, les intimidations ont échoué à arracher une majorité relative. Crise politique et institutionnelle, applaudit le porte-parole des communistes, Olivier Dartigol. Nicolas Sarkozy signe lui-même son tweet. La vérité éclate au grand jour. Il n'y a plus ni majorité, ni gouvernement. Imagine, la motion de censure réussit. Les législatives ont lieu, l'UMP gagne et Nicolas Sarkozy doit devenir Premier ministre de Hollande. LOL, ricane déjà Thibault pour finir.
Christine Ocrane, ce soir, il n'y a plus de majorité, plus de gouvernement pour vous ?
Il n'y a surtout pas de parti socialiste. C'est en fait le Parti socialiste qui explose et qui révèle... On a tellement glosé sur l'esprit du 11 janvier, etc. Mmh. On voit qu'au sein du parti majoritaire, du parti de gouvernement, entre les frondeurs, ceux qui maugraient, ceux qui sont gagnés par les lobbies des professions protégées, etc., on voit à quel point ce parti socialiste est véritablement inexistant. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le réel.
Hein, d'une certaine manière.
Oui, mais enfin, alors à ce moment-là, qu'ils en tirent les conséquences et qu'ils se divisent et qu'il y ait un parti social-démocrate qui vit avec son temps, tel que cette loi Macron.
On va y venir à cette loi, est-ce qu'elle était ficelée?
Tous les grignotages incarnent, ou en tout cas expriment et traduisent. Et puis les autres qui veulent en rester, j'imagine, aux années 70.
Les années 60...
1970.
Et c'était peut-être
1800.
C'était peut-être dirigé à l'encontre de Gérard Miller, qui lui serait bien resté dans les années 70.
Oui. Il était beaucoup plus jeune.
Il est toujours jeune et beau. Donc, non,
en tout cas, Gérard Miller socialiste, Gérard Miller qui soutient les frondeurs, Gérard Miller qui donc
qui est plus à gauche même que le Parti socialiste. Mais quelle surprise, je n'en ai pas cru mes oreilles et mes yeux. Il y a encore des gens de gauche au Parti socialiste. C'est ça la grande nouvelle du jour, qui moi me réjouit personnellement, c'est qu'en effet, des gens de gauche, qui ont par exemple entendu Hollande dire le travail le dimanche, surtout pas, nous devons je ne me trompe pas, c'était bien il n'y a pas si longtemps que ça, nous devons préserver effectivement la vie familiale, la possibilité de faire du sport avec les copains, que travailler le dimanche, ça n'est pas la perspective. Ah, vous vous rappelez pas qu'il avait dit ça? Ben moi je m'en souviens.
Non, parce là, que vous regardez Christian Menanteau.
Donc faire du sport le dimanche.
Non, je trouve extraordinaire qu'on considère que le Parti Socialiste explose à partir du moment où des gens de gauche disent « nous sommes encore de gauche ». Je suis désolé, il faut que vous y fassiez. Enfin, on peut
donc si ce n'est pas le Parti Socialiste qui explose, c'est quoi? C'est le gouvernement?
Faire du sport le dimanche, c'est être de gauche. Non, c'est un peu
vous
court,
avez bien compris
même,
ce que je voulais
Gérard.
Dire. Et travailler en tout cas à tour de bras, ça n'est pas forcément ce que les gens
donc,
de gauche...
Là, déjà, on va faire le petit focus politique et puis on va... Mais ça veut dire que si ce n'est pas le PS qui explose comme le pense Christine...
On a vu d'autres, le PS. Le PS, il a connu des empoignades bien plus fortes que celle-là. Peut-être ne survivra-t-il pas? Moi, chaque fois qu'on a pronostiqué la mort du Parti Socialiste, je l'ai vu revivre de ses cendres. Pour l'instant, je ne pronostique pas sa mort. Je dirais que c'est une bonne nouvelle qu'il y a des gens de gauche qui ont envie de vivre en 2015 et pas en 1870 ou 1970 et qui simplement veulent rester un tant soit peu fidèles à ce que Hollande lui-même a dit dans sa campagne, Christine. Je n'ai pas rêvé. Vous avez bien entendu quand même qu'il a été élu à gauche.
Il a été élu à gauche pour se faire élire. Le problème, c'est que c'était il y a plus de 2 ans et demi et qu'il y a un moment où, et c'est vrai de tous les présidents de la République qui se font élire en général sur quelques mensonges, à un moment donné, la réalité les rattrape. Et si on veut...
Et la réalité est toujours de droite.
Non, la réalité impose ses contradictions d'ailleurs. Et elles imposent à tous les partis politiques. On a vu les mêmes déchirements au sein de l'UMP. Simplement là, encore une fois, c'est une loi qui essaye un tant soit peu de faire sortir la France d'un certain nombre de carcans qui sont véritablement antédiluviens.
Alors on va y revenir à cette loi dans un instant. Pour l'instant, on reste sur l'aspect politique. Christine disait que le PS avait explosé d'une certaine manière. Oui. Gérard Miller, pas du tout. Et vous, Christian Manteau, est-ce que finalement, ce n'est pas le gouvernement qui explose ce soir? Enfin, l'aveu d'impuissance du gouvernement, est-ce que...
Pas du tout. Moi, je partage l'avis de Gérard Miller. C'est une excellente nouvelle.
Ah bon?
Mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est au moins, j'en vois au moins trois. La première, c'est que ça montre la détermination de Hollande et de Valls à réformer. Ils ne vont pas céder sur cette affaire, donc ils vont au 49-3. La deuxième, c'est qu'ils mettent les frondeurs face à leur irresponsabilité. Si ça ne leur plaît pas ce que propose ce gouvernement, il faut qu'ils démissionnent du PS.
Ou qu'ils votent la censure demain.
Et la troisième chose, c'est que ça met aussi l'opposition face à ses contradictions. Parce qu'il y a dans ce texte à peu près tout ce qu'elle dit off ou on, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et puis, dès qu'il s'agit de passer à l'acte, dès qu'il s'agit de voter, elle dit, ah ben non, il n'y en a pas assez, donc on ne vote pas. Je me dis, mais où est-ce qu'on est? On a un taux de chômage record, on a une industrie qui est en train de se désagréger, on ne pourra plus payer les retraites des cadres dans 3 ans, et on est en train de se battre sur quoi? Pour savoir si les maires vont autoriser 3 ou 5 ou 7 dimanches de travail. C'est les maires qui le décideront, et ce seront de surcroît les responsables des magasins qui décideront et qui choisiront de le faire. Donc on est en train de parler d'un truc minuscule, je veux dire pelliculaire, et on se bat à l'Assemblée pour ça. Je trouve qu'on...
C'est drôle.
C'est
drôle que vous ne pensiez pas que derrière ce calcul que vous réduisez à 5 jours, 7 jours, il y a un débat de fond, c'est quelle société voulons-nous? Est-ce que nous voulons
ça,
une société...
Ça, c'est de l'amusement,
est-ce que nous... Mais non,
on
franchement,
s'amuse,
est-ce que nous voulons...
Ah, c'est ça. Oui, est-ce que nous voulons une société qui sait tout?
Est-ce qu'on veut 3 millions et demi de chômeurs permanents et 5 millions...
Et qui les a fabriqués? C'est le libéralisme. C'est quand même passé par les frondeurs qui les ont fabriqués.
C'est la Corée du Nord qui en fabrique.
Juste avant de poursuivre et vous donner la parole, Yvan Rioufol, on a en ligne justement l'un des frondeurs. Christian Paul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous pouvez échanger avec nos polémistes. Vous avez entendu à l'instant Christian Manteau qui dit à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, il faut démissionner du PS, Christian Paul, puisque c'est ça le débat de ce soir.
Non, quand même, la loi Macron, c'est pas la loi du siècle. On a un désaccord évident sur cette loi. Mais il avait raison, c'est même une loi du siècle précédent.
Bah, si c'est pas une loi du siècle, laissez-la courir.
Non, parce qu'elle comporte des articles qui sont tout à fait toxiques, que ce soit sur le droit du travail et notamment la protection en cas de licenciement, le travail du dimanche, la distribution d'actions gratuites pour les liaisons du CAC 40, excusez du peu.
Non, c'est pour les start-up, pas le CAC 40.
Non, c'est étendu à l'ensemble des entreprises, c'est pas seulement les start-up justement. Et donc il y a un certain nombre de difficultés que nous avons soulignées depuis des semaines dans cette loi. Le dialogue a manqué, il y a eu un travail parlementaire sérieux mais interminable, très technique.
Si vous voulez qu'il y ait un dialogue, il faut que ça prenne du temps. Et maintenant, vous dites que c'est interminable.
Écoutez,
souffrez
qu'on puisse avoir sur les articles essentiels de ce texte un débat politique pour savoir s'ils sont utiles au pays ou si, au contraire, ils ouvrent une brèche à contre-courant de ce que nous avons défendu depuis des années.
Mais alors, Christian Paul, la question de ce soir était, puisque Christian Manteau le pointait, et puis après on va poursuivre, mais si à un moment donné vous êtes en désaccord avec la ligne du PS...
Faut voter la motion de censure jeudi, monsieur le député.
Non, pas une seconde. Vous savez, depuis des mois, nous l'avons dit, il y a deux options.
On ne comprend plus rien, là.
Il y a deux options.
comprends. Il n'y a que vous qui comprenez
si
rien.
Allez-y, allez-y. On vous laisse expliquer, puis on continuera à débattre.
Il y a aujourd'hui deux options au sein de la gauche du gouvernement qui se sont confrontées au moment des textes budgétaires, au moment de la loi Macron, au moment du pacte de responsabilité. C'est un débat qui n'est pas médiocre, qui porte sur des choix essentiels en matière de politique économique et sociale. Mais s'opposer sur ces questions-là, exprimer des désaccords, faire des propositions, et nous en avons fait beaucoup, ça n'est pas signé son départ du Parti Socialiste.
Ça sent le Congrès.
Non, parce que très franchement, vous savez, un congrès du Parti Socialiste, c'est un moment où on ne va pas forcément dans le détail. Là, nous allons dans le détail avec la loi Macron. Nous allons dans le détail de choix importants. Et quand, à un moment donné, nous avons le sentiment que notre voix n'est pas entendue, nous avons décidé de le marquer par des votes. Voilà. Et le recours au 49-3, c'est une méthode qui honore rarement la Ve République.
Mais qui a été utilisé. Alain Duhamel l'a rappelé par Raymond Barre, par Michel Rocard à tour de bras. Hein. C'est quand même pas une première. Hein.
Oui, mais on pouvait l'éviter avec davantage de dialogue et recherche d'un compromis qui n'a pas été réellement recherché.
Donc voilà. Ce soir, vous êtes content de vous ?
Non, il n'y a pas, vous savez, dans une période comme celle-là, il n'y a pas de victoire ou de défaite. Il y a simplement une méthode gouvernementale qu'il faut réviser. Il faut davantage de dialogue au sein de la majorité, pas seulement avec ceux des députés qui sont d'accord, mais au moins autant avec ceux qui marquent de temps à autre sur des questions essentielles des désaccords. Et sur la loi Macron, il faut revoir la copie et ensuite pouvoir s'asseoir autour d'une table. Voilà.
Bah, manifestement, la copie ne sera pas revue puisque ça passera. Donc, puisque
oui, c'est le paradoxe,
censure,
c'est que du coup, elle passe d'un bloc.
Mais je souhaite vraiment que le Premier ministre et le Président de la République ce soir entendent l'appel de députés qui n'entendent pas quitter la majorité et qui veulent faire valoir leur point de vue, qui très franchement n'ont pas été entendus au cours des dernières semaines. Nous avons averti, nous avons alerté sur les risques qu'il y avait à maintenir cette loi à l'agenda du Parlement, à un moment où il y a quand même...
Non mais le paradoxe, Jean-Paul, pour conclure et pour continuer le débat, le paradoxe c'est que finalement cette loi, elle va passer en état, et le résultat, c'est que le gouvernement est fragilisé. Donc,
Arrêtez de rêver de députés godillots. Vous avez des députés de gauche qui disent que sur cette question-là, ils restent à gauche. C'est pas pour ça qu'ils quittent le Parti Socialiste, c'est pas pour ça qu'ils souhaitent que la droite arrive. Mais si, je suis désolé, il y en a marre. On a eu sous la Ve République des centaines, des milliers de députés godillots qui, comme un seul homme, votaient pour la majorité, même s'ils étaient contre. Là, vous avez des gens de gauche qui restent de gauche.
Depuis le printemps dernier, ce temps-là est révolu. Il y a eu un mouvement d'émancipation parlementaire. Je le crois nécessaire, je le crois utile, je le crois légitime parce que cette politique, on l'a bien vu, n'était pas soutenue par beaucoup de ceux qui nous ont fait confiance en 2012. C'est une épreuve pour la gauche au pouvoir, c'est toujours d'ailleurs une épreuve au pouvoir dans des périodes de crise. Mais voilà, maintenant il faut trouver le chemin de la conciliation, ça n'a rien d'impossible.
Merci Christian Paul, on revient dans un instant avec Yvan Rioufol, qu'on n'a pas entendu encore sur le débat, tout de suite.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde dans RTL Soir.
À 19h30, on refait le monde ce soir avec Gérard Miller, Christine Ockrent, Christian Mananto, Yvan Rioufol. Et pendant la pub, Yvan Rioufol, Gérard Miller disait que finalement vous n'aviez pas eu à vous exprimer puisque tous les arguments de droite avaient été exprimés par des gens de gauche à peu près.
J'en ai encore quelques autres.
Par exemple.
Ils sont d'ailleurs peut-être pas de droite, tout particulièrement.
Mais les nôtres non plus.
Je vais reprendre un argument de Gérard Miller qui m'a touché en disant qu'effectivement, il fallait aujourd'hui que l'on s'intéresse à répondre aux mutations de la société. Sauf que Gérard Müller pense que la société n'a pas muté, que la société, si j'ai bien compris, reste encore dans ses travers des années 70, pas pour moi ses travers. Or, maintenant, la société a changé. Nous sommes devant un monde nouveau. Et ce monde nouveau doit être pensé. Or, il y a un impensé politique. C'est pour ça que je suis effaré par la petitesse des arguments qui sont développés, notamment par la frange la plus à gauche de la gauche, qui est en train d'ergoter sur des dimanches, à 4, 5, 6 dimanches. C'est absolument ridicule. Moi, ce que j'observe, c'est que cette loi Macron était une loi, dans le fond, dans la lignée de la politique du ni-ni, c'est-à-dire ni de gauche, ni de droite. C'était une loi qui ne voulait absolument rien dire de très concret. D'ailleurs, on y a mis de tout, y compris un calendrier sur les fêtes religieuses. Et donc, on voyait bien que ça n'avait pas de sens, ça n'avait pas de logique. La seule logique qu'il y avait, c'était effectivement de percevoir vaguement un commencement de libéralisme qui me plaisait bien, dans le fond, c'est vrai, mais on ne fait pas une politique sur du subliminal. Et donc,
ça vous plaisait bien, mais ça ne plaisait pas manifestement à des députés UMP qui n'ont pas voté. Hein.
Mon avis n'a pas d'importance. Ce que j'en déduis surtout, c'est que aujourd'hui, la gauche n'a plus le logiciel idéologique pour répondre aux impératifs de la nouvelle société. Et donc ça, c'est vraiment une vraie crise économique, une crise idéologique. Mais je crains que la droite n'ait pas non plus ces réponses-là.
Ça, c'est clair.
La droite se montre... se montent du col et commencent à donner des leçons, mais la droite n'a pas plus réfléchi que la gauche à cette nouvelle...
À alors, qui a les réponses, à Ivor Youssef?
Les réponses, elles sont dans les réalités. Il faut qu'on... Il
mais
faut
c'est qu'il où, où la réalité? Quelle partie l'incarne?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut se confronter maintenant à l'échec de toutes les idéologies, singulièrement à l'échec de l'idéologie socialiste? Le socialisme est mort, je suis désolé de vous le dire aussi brutalement, mais j'ai déjà dit ici depuis quelques temps, donc...
Quelle partie incarne les solutions pour vous? Personne.
Il y a un impensé, c'est ce que j'ai dit en préalable. Il faut aujourd'hui qu'on regarde les réalités et de voir comment on y répond. Il y a une faillite des idéologies et aujourd'hui, nous devons faire, les partis doivent se convertir à un pragmatisme d'urgence, mais ça n'en fait pas non plus une politique très d'envergure.
Non, ce qui est dramatique, c'est que cela donne l'impression, me semble-t-il, aux Français, que les jeux politiques ont plus d'importance que la souffrance des gens et d'abord des chômeurs, la souffrance des gens qui ont maintenant l'angoisse pour leur retraite, les cadres moyens qui lisent que l'ARCO, la GIRC, là, dans 3 ans, comme
les retraites complémentaires,
Mélenchon, ne pourront plus être payés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit des partis politiques qui font mumuse. Je veux dire, il me semble que l'état sérieux du pays, dont on a tellement exalté à juste titre le sursaut, l'extraordinaire énergie collective qui se dégageait dans les drames de janvier, et on voit à l'Assemblée nationale que tout ce petit monde retombe dans ses manœuvres habituelles.
On se rend compte que la lecture que faisait Valls de l'unité nationale était simplement une lecture pour lui très bénéfique, qui était en fait de faire...
Un
consensus sur une politique tout à fait contestable. Et d'ailleurs, c'était cet argument qu'il avait répété, je crois, c'était ici même ou sur une
autre. Hier matin sur RTL.
Ne revenons pas sur l'unité nationale. Elle a été nécessaire.
C'était un argument de politique.
Non, mais l'unité nationale a été nécessaire et j'espère qu'elle sera maintenue chaque fois qu'il le faudra. C'est pas pour ça qu'on a les mêmes points de vue économiques ou politiques. Heureusement que moi, je suis pas d'accord avec Christine.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'était un rêve pour la gauche qui s'effondre de cette unité nationale qu'elle voulait instrumentaliser.
Elle n'imaginait pas pouvoir gouverner avec cette unité nationale. Moi, je ne vois pas pourquoi il faudrait considérer que le Parlement se déconsidère lorsqu'il débat et lorsqu'éventuellement il y a un certain nombre de gens qui vont jusqu'à manifester comme les frondeurs leur désaccord. Là où je suis d'accord paradoxalement avec M. Rioufol, c'est lorsqu'il dit en effet que le logiciel de la gauche comme de la droite est actuellement bloqué. Il n'a pas voulu répondre à votre question, Marco, moi je vais y répondre, c'est qu'effectivement, il y a des gens de gauche qui pensent qu'il faut aller plus à gauche comme après tout les Grecs sont en train de tenter, et il y a des gens de droite, j'imagine que c'est votre cas, mais je me trompe peut-être, M. Rioufol, qui pensent qu'il faut aller encore plus à droite, voire à l'extrême droite, et tenter autre chose.
On parle de libéralisme. L'extrême droite n'a pas les réponses à la crise économique.
Mais moi, je pense en tout cas qu'il faut tirer profit de ce qui se passe actuellement. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelque chose dans le libéralisme tel qu'il se pratique aujourd'hui qui est défaillant, qui a raté. Vous voulez plus de libéralisme et nous sommes quelques-uns à penser.
Non, mais est-ce que vous avez une autre solution, peut-être que le libéralisme, c'est pas la panacée, mais d'accord.
A priori, c'est ce qu'il y a de mieux pour.
Juste un mot pour Gérard Miller. Ce qu'il y avait quand même qui sous-tendait l'ensemble du travail des 200 textes qui ont été soumis et qui ont duré peut-être trop longtemps selon les frondeurs, mais qui en même temps a été assez positif, c'est qu'il y avait une première atteinte à la rente. Or, la rente, ça devrait être quelque chose pour lequel vous devriez vous lever matin, midi et soir. La rente, c'est l'institutionnalisation de certains privilèges qui n'ont pas lieu d'être. Eh bien, cette loi commençait à égratigner, je ne dis pas qu'elle s'attaquait, elle égratignait quelques rentes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire des frondeurs? Ils confortent la rente. Je dis bravo.
Vous savez bien que c'est pas là-dessus qu'ils se sont opposés.
Ils se sont opposés. On ne sait pas sur quoi.
Je voudrais un jour vous entendre.
C'est une loi fourre-tout, malgré tout. C'est une loi tape à l'œil. C'est une loi qui ne veut rien dire.
Mais est-ce que je pourrais un jour.
En tout cas, la loi va passer. C'est ça le problème.
J'allais terminer un peu comme ça. C'est que la loi, elle va passer.
Mais c'est la démocratie, c'est la Constitution.
Un mot quand même là-dessus. Et pour terminer, est-ce que le grand perdant, c'est pas Manuel Valls?
Je ne le crois pas, moi, personnellement.
Et vous, Christine?
Je ne le crois pas non plus. Je crois que, au contraire, le fait. On sait que le 49-3, pour une loi de ce genre, c'est un fusil à un coup. Ça veut dire que le président de la République et son premier ministre s'en privent pour le restant du quinquennat. Et donc, ça prouve toute l'importance, à la fois symbolique, plus symbolique d'ailleurs que pratique, qu'ils accordent à la loi dite de réforme.
Je pense que le perdant, s'il y en a un, ce serait plutôt François Hollande, parce que Manuel Valls s'affirme malgré tout dans une détermination. Il veut passer en force, et il a bien raison de le faire. Il est toujours d'ailleurs amusant de voir les critiques que portait François Hollande en 2006, quand il parlait justement de ses passages en force, de ses dénis de démocratie, de ses brutalités. Il est ce personnage-là, et je crois qu'il prend date pour l'histoire, et Macron non plus ne s'en sort pas si mal dans le fond, même si effectivement sa mesure a été pour moi tout à fait dérisoire, mais il a réussi malgré tout à enclencher un petit début de processus de libéralisme, ce qui est...
Gérard, pour terminer là-dessus,
bah écoutez, moi je dirais que je ne sais pas qui est le grand perdant, je trouve que le gagnant c'est le Parti Socialiste, contrairement à tout ce qui a été dit, de prouver effectivement qu'il est capable en effet d'avoir une partie de sa... de ses
il est capable de s'aborder, bah oui aussi.
Non, je trouve que c'est drôle, moi je trouve que c'est plutôt positif que le Parti Socialiste témoigne de ce type de vitalité, que les frondeurs ne sont pas tous à l'extérieur du Parti Socialiste.
Vitalité mortelle, en l'occurrence.
Écoutez, attendez un peu.
Allez, à suivre, le procureur au procès du Carlton demande la relaxe de DSK. On en débat dans un instant.